afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Galates 5, verset 17. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne divine, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons aussi vu qu'il s'occupe de pécheurs perdus pour les amener à la repentance, qu'il implante en ceux qui se repentent une vie nouvelle, une vie de résurrection qui est liée au Seigneur ressuscité d'entre les morts et assis maintenant dans les cieux. Nous avons vu qu'il habite dans celui qui est né de nouveau, après que ce dernier a cru à l'œuvre rédemptrice parfaite du Seigneur Jésus, et qu'il est là, en lui, la puissance qui l'amène en communion avec le Père et avec le Fils, mais qui aussi le lie à un Seigneur rejeté par le monde et auquel il doit rendre témoignage. Il est le Consolateur, et nous avons été affranchis par lui de la puissance du péché, et nous avons été oints et scellés par lui. Oui, nous avons vu que toutes nos bénédictions et tous nos privilèges sont en rapport avec lui, et que toute notre position est caractérisée par son habitation en nous. Nous sommes dans l'Esprit. Quelle influence tout cela a-t-il sur notre vie pratique? Car il n'est pas possible que Dieu le Saint-Esprit habite en nous sans que cela exerce une influence sur notre vie de tous les jours. Galates chapitre 5, Éphésiens 4 verset 30 et d'autres passages développent ce sujet.
Éphésiens 4 verset 30 « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
Galates chapitre 5 parle de la liberté du croyant. En Romains chapitre 8, nous avons vu que le croyant est délivré de la loi du péché et de la mort. Ces personnes affranchies sont ici placées devant nous. Nous lisons au verset 1
« Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. »
Et le verset 13 dit
« Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair. »
Dans ce chapitre, la liberté est considérée sous deux aspects, d'une part comme une question de justification, et d'autre part comme ce qui conduit à la sainteté pratique et y est lié. Dans la première partie du chapitre, c'est la loi qui menace la liberté. Les Galates connaissaient la délivrance qui est dans le Christ Jésus, et ils y avaient part. Toutefois, à côté de cela, quelques-uns voulaient maintenant se placer sous la loi. Mais l'apôtre leur dit qu'ils perdaient alors tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, peu importe le motif pour lequel ils se plaçaient sous la loi. Même si on le fait par reconnaissance, comme on le dit si souvent, le résultat est le même. La loi ne connaît que des hommes vivants qui ne peuvent pas satisfaire à ses exigences et tombent ainsi sous le jugement. Bien qu'elle soit sainte et juste et parfaite, elle n'a aucune force pour justifier ou réconcilier. Elle ne peut en aucune manière améliorer la vieille nature et ne peut jamais servir de ligne de conduite à la nouvelle. Le vieil homme que le croyant, qui est donc mort en Christ, a dépouillé n'est pas son objet et le nouveau n'en a pas besoin. La nouvelle création a un autre objet pour elle et une autre puissance agissant en elle pour produire ce qui est bon et agréable à Dieu, Christ, réalisé dans la puissance du Saint-Esprit. C'est là la vraie liberté. Toutefois, la liberté est aussi menacée d'une autre façon. Le croyant affranchi n'est plus dans la chair, comme nous l'avons vu en Romains 8, verset 9, mais la chair est encore en lui.
Romains 8, verset 9, « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. »
Et cette chair a des convoitises qui manifestent ce qu'est la chair, savoir mauvaise, pécheresse et ennemie de Dieu. Galates 5, verset 19 à 21 donne une affreuse énumération de ces convoitises.
Galates 5, verset 19 à 21 « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquels sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Si je les accomplis, je ne suis alors plus libre, mais je suis devenu esclave du péché. Que dois-je faire alors? La chair est en moi et cherche à m'entraîner à satisfaire ses convoitises. Dois-je combattre contre la chair? Romains 7 nous a enseigné que je subirai alors certainement une défaite, car je n'ai pas de force pour la vaincre, même si je prends la loi comme ligne de conduite. L'apôtre donne la réponse.
Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair.
Nous, en qui Dieu le Saint-Esprit habite, nous qui sommes dans l'esprit, nous pouvons marcher par l'esprit dans la vie de tous les jours, et alors nous n'accomplirons pas les convoitises de notre vieille nature. Si je n'ai point de force pour vaincre la chair, le Saint-Esprit en a la puissance. Et si la chair convoite contre l'esprit, cherchant ainsi à nous empêcher d'agir par et selon l'esprit, le Saint-Esprit s'oppose à la chair et la vainque, et il le fait afin que nous n'accomplissions pas ce que nous voulons, mais que nous agissions seulement selon la volonté de Dieu, afin que soit trouvé en nous, en faiblesse sans doute, ce que le Seigneur Jésus pouvait dire
« Je fais toujours les choses qui lui plaisent ».
Cela se trouve-t-il en nous? La réponse ne comporte pas de doute. Nous pouvons très bien savoir si ce sont les œuvres de la chair ou les fruits de l'esprit qui se manifestent dans notre vie. Ils sont de caractères si différents que nous pouvons les discerner sans autre. Que la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, etc. soient des œuvres de la chair, personne n'en a jamais douté. Mais sommes-nous aussi persuadés que les querelles, les jalousies, les divisions, les intrigues, les sectes et les envies sont des œuvres de la chair, de sorte que, même si nous vivons d'une manière irréprochable, il se peut que notre marche soit selon la chair. Philippiens chapitre 3. Ne nous abusons pas nous-mêmes. Il y a un signe certain qui peut nous dire si ce que nous faisons est par l'esprit ou de la chair. L'esprit cherche uniquement la gloire du Seigneur Jésus, et jamais notre propre honneur. Et il n'accomplit jamais quoi que ce soit qui s'écarte de la Bible. Tout ce que nous faisons pour recevoir de la gloire est de la chair, sachant juger notre vie. Éphésiens 4, versets 17 à 32 parle de notre vie de chaque jour.
Éphésiens 4, versets 17 à 32 « Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu, et avez été instruits en lui, selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, et tout courroux, et toute colère, et toute crierie, et toute injure, soient ôtées du milieu de vous, de même que toute malice, mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné.
Au verset 30, il est dit
« Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. »
Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. En 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit expressément
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? »
Ne doit-il alors pas avoir la direction de notre vie ? Ne voulons-nous alors pas le questionner dans tout ce que nous devons faire, afin qu'il puisse nous employer ? Si nous faisons notre propre volonté, ne sera-t-il pas attristé ? Nous servons-nous de notre corps, ce corps qui est son temple, de telle sorte que le Saint-Esprit ne soit pas attristé ? Ou l'employons-nous d'une autre manière, peut-être lorsque nous sommes seuls ? Où que nous allions, pensons-nous que le Saint-Esprit habite en nous ? Pouvons-nous emmener le Saint-Esprit partout où nous avons coutume d'aller ? Est-ce que tout ce que nous voyons ou entendons là est en accord avec sa sainteté ? Peut-il entendre tout ce que nous disons ou faisons sans être attristé ? Puissions-nous nous poser sérieusement toutes ces questions ?